Bonjour à toutes et à tous. Le thème qui occupe les nouvelles vagues cette semaine, c'est construire. Lundi, le collectif Pérou prêtait attention et regard à ce qui, dans les camps de Calais ou d'ailleurs, se construit. Mardi, avec Pierre Alféri, il était à la fois question de la construction des phrases, politique des formes, mais aussi de la construction des catégories littéraires. Hier, mercredi, nous évoquions la joie ludique de la construction dans le jeu vidéo Minecraft. Et demain, vendredi, on parlera montage au cinéma. Aujourd'hui, des vignettes BD de vies adolescentes rappellent que se construire est une longue histoire.
C'est la question d'un nouage tout à fait précis entre cette condition de l'éveil et cette condition de l'exil, qui sont vraiment les deux termes les plus principes de l'adolescence.
Les aventures de Guilet et Belinda et l'énigmatique sens de leurs rêves. Il s'agit d'un projet de la photographe Alessandra Sanguinetti dont elle raconte ainsi le commencement. Elle courait tout le temps, elle grimpait, chassait les poulets et les lapins et parfois je les prenais en photo pour qu'elles me laissent tranquille et qu'elles arrêtent d'effrayer les animaux. Mais la plupart du temps, je les chassais de mon cadre. J'étais indifférente à elles jusqu'à l'été 1999 où j'ai passé presque toutes mes journées à leur côté. Elles avaient alors 9 et 10 ans et un jour, au lieu de leur demander de se mettre de côté, je les ai laissés rentrer dans le champ. Et de cette décision, la photographe obtient une ouverture folle sur la transformation de ces deux filles en jeunes filles, une ouverture aussi au sens de la pluralité des vues et des regards qu'elles s'offrent mutuellement, une ouverture enfin parce que tout change, le rapport des filles entre elles et celui qu'elles entretiennent peu à peu avec l'image. Deux livres photos sont nés de ces étés et ce sont des merveilles. Il est 14h passé de 3 minutes, vous écoutez France Culture, nouveau corps, nouvelle tête, nouvelle vague. Et nous aimons les nouvelles vagues aussi parce qu'elles sont liées souvent à des expériences intenses de la vie. C'est pourquoi nous demandons à une personne chaque semaine de sonder ses souvenirs à la recherche de 5 moments comme ça. Cette semaine, Rada Atem se prête à l'exercice. Cette gynécologue obstétricienne s'est battue pour ouvrir une maison des femmes à Saint-Denis. Cela arrivera en juin, c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, elle raconte sa découverte d'un lieu, la maternité suisse d'Elne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Elisabeth Heidenbenz y accueillit de nombreuses femmes juives, tziganes, espagnoles et d'autres qui fuyaient les persécutions et trouvaient dans cet endroit réconfort et soins. Récit vers 14h45. Quatrième moment donc d'une semaine consacrée à la construction. Aujourd'hui, il est question de la construction d'un être. Et si l'on ne peut pas dire que celle-ci prend fin à tel ou tel moment, on peut au moins dire qu'elle est spécialement intense au moment de l'adolescence. Partant de vos propres souvenirs d'adolescente et profitant de l'accueil qui vous a été fait par un groupe d'adolescents de l'unité psychiatrique de l'hôpital Sainte-Barbe, vous avez questionné, écouté, dessiné, regardé ce qui chez eux se construit mais aussi se déconstruit avec pour ligne de mire un peu d'indépendance, du bien-être et l'invention de soi. Pauline Aubry, bonjour.
Bonjour.
Votre bande dessinée s'appelle Les Mutants, elle est publiée aux éditions Des Arènes et pour ce projet, on peut dire que le personnel soignant, tout confondu, a facilité les rencontres, a été aussi des rencontres en soi, c'est pourquoi on souhaitait une présence médicale, la vôtre. Julie Bourgin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin dans un autre endroit, médecin psychiatre dans l'hôpital Sainte-Anne et vous êtes responsable du centre d'évaluation pour les jeunes adultes et adolescents. Alors peut-être avant de parler de Sainte-Anne ou d'autres endroits, à quoi ressemble l'hôpital Sainte-Barbe puisqu'on parle beaucoup de construction, l'endroit où vous meniez ces ateliers BD?
Alors l'hôpital Sainte-Barbe, en fait c'est la Pitié-Salpêtrière. Et la Pitié-Salpêtrière c'est un endroit très particulier. D'ailleurs c'est un peu comme ça que j'ai décrit un peu l'entrée en matière et le moment où j'ai eu la première réunion dans le service de pédopsie, c'est que déjà, la Salpêtrière, c'est un endroit immense. Donc ce reportage, je l'ai fait par l'intermédiaire du docteur Benoît, qui est une de mes meilleures amies, qui était pédopsychiatre là-bas. Et elle m'avait dit, prévois bien un quart d'heure entre le métro et le service de pédopsie, parce que tu verras, c'est très loin, tu peux te paumer. Effectivement, j'ai décrit ça un moment dans la BD, c'est que j'arrive et c'est une ville dans la ville, quoi. C'est vraiment, il y a un parc, il y a des voitures, il y a des chariots d'aéroport, c'est un endroit très compliqué et assez, pas mal à l'image du fait que l'hôpital, c'est une ville, quoi.
Et donc vous, vous décidez de faire un reportage, vous avez l'accord de différentes personnes, vous mettez en place ces ateliers BD. Dans l'espace, ça ressemble à quoi? Quand vous vous installez, vous êtes accueillis dans quelle salle?
Alors en fait, au début, mon idée n'était pas forcément de faire des ateliers, c'est que j'avais envie de faire un reportage. Voilà, le deal, c'était que faire un reportage, c'était pas possible parce que le professeur Cohen, qui est donc le chef du service de pédopsie, était, enfin, il n'aime pas qu'on dise pédopsie, on dit service
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
Pédopsie, je crois que c'est un peu péjoratif, mais il savait pas trop. Il est toujours un petit peu méfiant par rapport aux journalistes, donc il lui avait dit, écoute, pourquoi pas, mais il faudrait qu'elle propose plutôt des ateliers pour rentrer en contact avec les adolescents, etc. Donc du coup, avec le docteur Benoît, on a et une petite équipe d'éducateurs et un prof d'art plastique, on a imaginé un peu ce que pourraient être les ateliers et on est parti du principe que c'était donner la parole aux adolescents et qu'ils racontent leur vie à l'hôpital. Donc du coup, ça c'est dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a différents ateliers, donc il y a l'atelier cuisine, il y a l'atelier art plastique, il y a aussi une école. Donc du coup, il y a des lieux qui sont déjà dédiés à différentes disciplines et du coup, on a bénéficié de l'atelier d'art plastique qui est une petite salle en bas, déjà très bondé de dessins, de plein d'expressions plastiques, parce que le prof d'art plastique, c'était un retraité de l'éducation nationale, mais qui était très actif dans le service, donc s'occupait de tous les enfants de 5 ans jusqu'à 16 ans. Et donc, lui, il était présent et c'était un peu un dinosaure, entre guillemets, mais je dis ça gentiment, c'est que lui, il avait vraiment vécu ça et ça faisait 15 ans qu'il était là et donc c'était un super soutien. Et donc, il m'a dit, tu verras, dans ce lieu, il se passe des choses extraordinaires. Donc, c'est là qu'on a fait l'atelier avec le petit groupe d'adolescents.
Le verbe construire, il arrive dès la quatrième de couverture par cette phrase, il me semble, un ado se construit en marchant. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de la construction d'un être ou de quoi on parle exactement quand on parle de la construction d'un être, Julie Bourgin?
Alors, disons que c'est dans tes propos, du coup, dans la BD, Pauline. La construction, je crois que ça fait référence, effectivement, à la construction de ce qu'on peut appeler identitaire. Donc, c'est-à-dire, finalement, comment on devient un adulte, si tant est qu'on devient vraiment un jour complètement adulte. Mais je crois que c'est un peu ça que tu voulais dire, c'est-à-dire comment se construit l'identité au fil de ces années dites adolescentes, qui reculent de plus en plus, d'ailleurs, en termes d'âge. On sait maintenant que à 25 ans, on parle de grand adolescent, le fameux adolescent. Et je crois que voilà, c'est là, vraiment la construction du soi en termes d'identité.
Ça veut dire quoi, construire son identité?
Alors, construire son identité, je pense que le résumé, ça serait prétentieux de ma part résumer.
On n'a pas besoin de résumer, on peut prendre un peu de temps.
Pour moi, construire son identité, effectivement, c'est réussir à s'affranchir de certaines choses, c'est-à-dire prendre confiance en soi, avoir pouvoir... Comment dire, cerner quels sont ses désirs, ses propres angoisses, et de ça devenir un individu relativement autonome, c'est-à-dire plus dépendant finalement de ses parents et pouvoir partir de chez soi sereinement, si on peut résumer ça comme ça.
Et pourquoi est-ce que l'adolescence est un moment où cette construction-là, elle est plus intense, éventuellement plus problématique ou éventuellement plus douloureuse que d'autres moments de la vie où la construction serait moins douloureuse ou moins difficile?
Alors, je pense cette période de la vie, donc on sait que sur le plan biologique, effectivement, c'est une période pleine de remaniements hormonaux qui font qu'on est, quand on est adolescent, explosif. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est contrôle des impulsions donc est plus difficilement régulé. Et donc là, il y a quelque chose d'assez explosif et ce qui fait que l'adolescence est souvent s'exprime par des conduites qu'on appelle externalisé, extériorisé, donc troubles du comportement en l'occurrence qui sont visibles. Donc c'est ce qui fait que peut-être ça paraît plus bruyant. De plus, effectivement, l'adolescence se confronte à la difficulté de pouvoir se confronter et d'une part à la famille, puisque finalement elle se construit pas toute seule. Enfin, on se construit pas tout seul en étant adolescent. Souvent, c'est en référence à une famille et en référence à une société. Et donc, Là, il y a quelque chose de très particulier, puisque on vient vraiment se confronter à la société, à la famille, chose peut-être qui est moins prégnant dans les autres étapes de la vie.
Un grand moment quand je viens au collège Piacema, c'est d'arriver un peu en avance pour voir comment les adolescents vivent dans la cour de récréation, comment leurs yeux, c'est des yeux qui contiennent un appel. Et je crois que si on n'est pas à la hauteur de la lumière qui brille au fond de leurs yeux, qui demande, et que là il y a une vraie vie, qui demande d'ailleurs, tous demandent à être regardés, pas par la télévision, ils demandent tous le point d'où, où ils pourront être entendus et regardés, parce que c'est la seule façon qu'ils pourront rattraper une image d'eux, là où dans d'autres endroits ils sont humiliés.
Philippe Lacadet, qui est psychiatre et psychanalyste et qui s'exprime sur une autre expérience menée dans un collège, cette fois-ci le collège Sémar, il dit qu'il faut être à la hauteur de ce qu'il y a dans les yeux de l'adolescent, quel que soit le moment, quelle que soit la difficulté d'ailleurs de la traversée de cette période-là. Vous sous-titrez votre livre, Pauline Aubry, Un peuple d'incompris. Ça veut dire que vous avez la sensation, ou bien dans cet endroit, ou bien de manière générale, en commençant cette bande dessinée, qu'on n'est pas exactement à la hauteur, qu'on n'a pas la sensibilité à la hauteur de ce qui est dans ce qui appelle dans le regard des adolescents.
En fait, un peu plein d'incompris, c'était un peu un titre à double sens, parce que le projet du livre au début, c'était de parler de qu'est-ce que c'est que d'avoir des maux psychiques et quelle est la difficulté de vivre avec, dans la mesure où la plupart du temps, les gens qui ont des maux psychiques ont du mal à se faire écouter par leur environnement quotidien, c'est-à-dire leurs parents, leurs amis. Moi, j'ai eu par exemple pas mal de crises d'angoisse, et faire comprendre aux gens ce que c'est qu'une crise d'angoisse si eux n'ont pas vécu ou qui font pas partie du personnel médical, c'est impossible en fait. Et du coup, on est vachement isolé et on se sent incompris et on est seul avec cette souffrance. Et après, le parallèle avec l'adolescent, du coup, je trouvais intéressant parce que, effectivement, quand on est adolescent, on a souvent ce sentiment qu'on est incompris des adultes, du monde. On a cette espèce de violence en soi qu'on n'arrive pas à canaliser et qui fait de nous aussi un incompris, en fait. Donc, le sous-titre, il était dans ces deux dimensions-là, en fait.
C'est quelque chose qui a été retrouvé dans les ateliers de discussion, les ateliers de BD avec les ados que vous avez rencontrés à la Salpêtrière, cette question de l'incompréhension.
C'était, disons que travailler avec des adolescents, moi, j'avais jamais fait, puisque je suis graphiste à la base, donc j'ai pas vraiment d'interaction avec un public particulier. Et puis, je suis un peu loin de l'adolescence, puisque j'ai 35 ans. Donc, c'est vrai que j'avais oublié ce que c'était que des adolescents, et le fait que, ben, déjà, il faut réussir à capter leur attention. Donc, pour en arriver à, après, à les faire réfléchir sur l'incompréhension, ça aurait été vraiment très compliqué. Donc en fait, j'ai essayé de poser un cadre de réflexion qui était juste raconter votre vie à l'hôpital pour essayer de faire venir des émotions, ou enfin sans se faire souffrir, mais dire voilà quel est votre ressenti et en quoi l'hôpital est un soutien pour vous, un endroit agréable, désagréable, positif, négatif. Enfin voilà, c'était un peu ça l'idée. Et après, il y en a qui ont eu envie de raconter vraiment leur vie là, d'autres qui sont partis dans un monde complètement imaginaire. Donc après, c'était pas contraint, quoi. Mais on n'a pas pu aborder des questions aussi précises que vraiment le cœur de l'adolescence, quoi.
On parlait à l'instant avec Julie Bourgeois d'une construction identitaire. C'est pareil, est-ce que c'était des choses qui étaient mises en mots? C'est quelque chose qui quand même revient à plusieurs reprises dans votre bande dessinée, que ce soit vos propres souvenirs ou ce que vous observez. Vous avez la sensation que ces jeunes gens-là, ils ont l'impression de traverser un moment intense de construction de soi?
C'est plus le recul qui permet de revenir sur ça, en fait. Je pense que l'expérience réelle vécue dans le service, elle permet une rencontre. Et une rencontre avec un public un peu particulier. Mais au fond, vu que les adolescents qui étaient dans le groupe étaient des adolescents qui avaient pas de pathologie lourde. Donc, c'était des adolescents qui étaient aptes à suivre et qui allaient après retourner dans la vie. Et je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave.
Et que donc, vous dites que du coup, ça signifie que sur le moment, ce ne sont pas des choses qui étaient mises en
mots. On n'est pas dans la réflexion de la construction de soi. C'est plus une fois qu'après, j'ai fait le reportage, j'ai plus réfléchi sur les maux psychiques. C'est quoi les maux psychiques et en quoi ces maux psychiques arrivent? Et en fait, en étudiant ces maux psychiques, en essayant de les comprendre, donc en essayant de comprendre ce que c'est que les scarifications, les TOC, en fait, le docteur Benoît, à chaque fois, venait m'apporter une explication là-dessus. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est des manifestations de la complexité de la construction de soi, en fait. Comment on va venir superposer ces différentes couches qu'on porte en nous. On est comme une petite poupée russe, en fait. Au fond de nous, il y a ce petit enfant qui a encore des souffrances d'enfant, qui a été englobé par une petite poupée russe adolescente et puis qui continue comme ça à se construire. Mais finalement, les souffrances de la petite poupée russe enfant, on continue à les porter. Et en fait, voilà, la rencontre avec les adolescents m'a permis, moi, d'entamer cette réflexion-là de comment on se construit soi-même et comment le petit enfant qu'on était devient l'adulte qu'on est aujourd'hui. Puisqu'en fait, on est un global, quoi.
Dans ces moments qui sont des moments un peu pédagogiques, ludiques presque, alors ça paraît étrange de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que ça apparaît, c'est-à-dire que vous expliquez en effet, à travers notamment les dialogues que vous avez avec votre ami qui est médecin, ce que vous comprenez des scarifications, ce qu'on peut comprendre des TOC, on a vraiment la sensation de quelque chose qui serait de l'ordre de la nécessité d'expliquer. Quand vous êtes à l'hôpital Sainte-Anne, Julie Bourgin, vous pouvez mettre en mots, est-ce qu'il y a des demandes d'explication des ados eux-mêmes ou des enfants eux-mêmes quand ils font face à des moments de destruction, à des moments où ils se font du mal, à des moments où c'est un peu plus compliqué, vous pouvez leur dire que ce sont des manifestations justement de la complexité de la construction.
Alors, je trouve que l'image des poupées russes est vraiment jolie, hein. C'est finalement quasiment la métaphore de la psychanalyse, finalement, d'aller dire voilà, on n'est qu'une superposition de plusieurs choses de son histoire et on doit faire avec également les poupées d'avant. Mais de là à dire que les enfants et les adolescents arrivent avec une demande claire de pouvoir expliciter les symptômes, en effet, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils posent les questions et je crois que dorénavant, il faut y répondre de façon très simple. Et d'ailleurs, ce sont on part du principe, personnellement, je pense que ce sont les meilleurs connaisseurs de ce qui leur arrive. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui permet d'avancer. Et
ils posent quoi comme question, par exemple?
Alors, ils disent pas pourquoi je me scarifie, point d'interrogation. Mais si effectivement, on est amené à leur donner un traitement médicamenteux, parce que, Pauline, tu en parles, hein, dans ta bande dessinée qui est assez didactique, en fait. C'est assez rigolo.
Parce ouais, que c'est
ce qu'on m'a dit. Il y a les sous-titres, et donc c'est très bien fait. Hein, et c'est fidèle aux recommandations. Hein, on a bien vu la sertraline pour les TOC, donc TOC, trouble obsessionnel compulsif. Du coup, si on leur donne un traitement, clairement, tout de suite, ils vont vraiment questionner pourquoi et qu'est-ce que c'est, etc. Et la question qui revient tout le temps, c'est « et est-ce que j'en aurai un à vie ? Quand est-ce que je vais pouvoir l'arrêter ?» etc. Ça, ils sont très demandeurs, ils posent beaucoup de questions. Après, le processus psychothérapeutique consiste justement à les amener à pouvoir prendre conscience de certaines choses, mais peut-être pas de façon directe en répondant à leurs questions. Je dirais que c'est un peu des chemins de traverse et on arrive par des entretiens types, justement, tu en parles beaucoup de la thérapie familiale systémique, à faire émerger, à donner du sens à ces symptômes. Mais c'est rarement en réponse directe à des questions qu'ils posent. C'est plutôt, en effet, un processus long qui permet de donner du sens et en tous les cas d'apaiser en tous les cas l'angoisse et généralement le symptôme.
L'angoisse, est-ce qu'on peut essayer de détailler un petit peu ? Évidemment, il y a mille angoisses et autant d'angoisses que d'individus, mais pourquoi est-ce que cette période adolescente-là, elle est un moment privilégié pour des angoisses ?
L'angoisse, c'est vrai que c'est un peu le cœur de ton livre aussi, hein, quand même, l'angoisse, parce que tu parles beaucoup de ce phénomène d'attaque de panique, là, où on perd complètement pied, c'est le trou noir avec le sapeur-pompier, quoi, quand même, qui vient.
La peur de mourir.
La peur de mourir et l'angoisse, elle est quand même, à mon avis, elle est transgénérationnelle, hein, elle n'est pas propre à l'adolescent. Seulement, l'adolescent, il vient peut-être que c'est la première fois qu'il est lié à confronter sans pouvoir y répondre via ses parents. C'est-à-dire qu'avant, quand même, les parents font ce qu'on appelle un peu pare-feu et donc sont censés pouvoir répondre aux angoisses de leurs enfants et être finalement quasiment le seul interlocuteur pour pouvoir diminuer l'angoisse. Et donc, finalement, à chaque angoisse, une réponse plus ou moins adaptée, en tous les cas, celle de son parent. Quand on devient adolescent, on se retrouve confronté à des angoisses comme à d'autres périodes de la vie. Seulement, là, il faut pouvoir y répondre finalement plus tout seul. Et c'est ça qui devient difficile, c'est finalement être confronté à ses propres angoisses et...
Et avec la volonté d'être autonome. Et
avec la volonté d'être autonome. Et donc, du coup, c'est une forme d'injonction paradoxale. C'est-à-dire, je voudrais être seule, mais finalement, je n'arrive pas à résoudre seule mon angoisse. Et c'est d'autant plus angoissant. Et finalement, c'est ça. C'est l'angoisse, elle est au cœur, l'angoisse qu'on puisse parler. L'angoisse de mort, l'angoisse de solitude, l'angoisse de réussite. Mm-hmm. Tu dis bien, à chaque âge, c'est très intéressant quand tu dis l'angoisse. Donc, petit, c'est l'angoisse de séparation. Non, je veux pas y aller,
d'abandon,
maman.
Ouais.
L'angoisse d'abandon, je veux pas aller à l'école, à la crèche, etc. Après, il y a l'adolescent, c'est l'angoisse aussi de l'échec. Qu'est-ce que je vais faire? Quid de mon image? Quid de ma réussite? Et puis, plus on avance, c'est... jusqu'à quel âge je vais vivre et est-ce que je vais pas faire un infarctus dans les deux heures qui vont venir. Mais voilà, typiquement à l'adolescence, là, on sait plus à qui s'adresser et du coup ça peut être très douloureux, très douloureux. Mais c'est pas forcément la maladie mentale.
Oui,
c'est ça qui est l'enjeu, il est là, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans un désordre psychique.
Avec des, mais vraiment pathologie, quoi.
Comme au sens pathologique, ouais. C'est-à-dire, et la frontière est ténue. Tu dis bien dans ta bande dessinée, quand même, le panel d'adolescents que tu as pu rencontrer au sein de l'hôpital Sainte-Barbe.
Voilà.
on voit bien que ça va du tout au tout. C'est-à-dire que tu avais des adolescents qui présentaient des symptômes très variés.
Mais qui étaient apparemment des... Enfin, c'était pas des autistes, c'était pas des adolescents...
Non, il y a Toto qui l'est, lui. Toto,
ouais, Toto est autiste. Toto est... Mais c'est vrai que c'est... Bah, Julie, elle travaille, par exemple, sur le dépistage de la schizophrénie. Et quand on a travaillé ensemble, quand elle me citait tous les symptômes, je suis sortie en me disant, tiens, peut-être qu'en fait, ils sont passés à côté de ça et que je suis schizophrène. Mais donc, quelque part, l'angoisse, elle... Un angoissé, il va chercher une réponse à son symptôme. Son symptôme physique. Et en fait, le symptôme physique... Je trouve qu'on est adolescent, on n'a pas encore de recul dessus et on n'est pas capable de faire le lien entre la douleur physique, qu'on prend pour une vraie douleur physique, et en fait, la douleur qui est en fait psychique. Et c'est là où on se retrouve très seul dans son angoisse.
Oui, l'angoisse, on apprend à gérer. L'angoisse est censée être une douleur, effectivement, sans objet.
C'est ça.
L'anxiété étant, elle, liée à quelque chose de bien particulier. Et donc, cette angoisse, tout d'un coup, sans qu'on puisse la matérialiser avec quelque chose de concret, et ben, voilà, c'est la définition de l'angoisse.
Elle est encore plus angoissante.
Et voilà.
Comme cet adolescent, un souvenir de la pluie sur les cheveux, sur un skateboard, sur la côte. Cet adolescent, comme cet adolescent, ce souvenir de toi, moi sur les rochers, de balade en été. We'll be right back.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
Bolonado là ! Bolonado là ! Bolonado là ! Bolonado là !
Qu'est-ce qu'elle vous raconte,
Tomasi ? Tu dis que je veux une femme, c'est normal, non ?
Non, pas vraiment.
Pourquoi ? Vous avez jamais envie de femme, vous, monsieur Moroni ?
Si, mais...
Eh ben alors, vous avez pas envie de crier comme ça devant tout le monde, non ?
Bon, allez, arrêtez vos singeries, Tomasi, descendez.
L'homme descend du singe. Tomasi est un homme, Tomasi ne descend pas du panneau de basket.
Je vous félicite. Cet excellent sophisme vous vaudra un avertissement. Et si vous êtes aussi bon en mathématiques qu'en philosophie, vous devez savoir que c'est le dernier avant le blâme.
C'est combien de blâmes pour un renvoi ?
Vous foutez de moi, Tomasi.
Mais non, mais faut rigoler, monsieur Moroni. Regardez, quoi, tout le monde sourit. Ça vous arrive jamais de rigoler un
c'est
peu
vrai,
il faudrait parce que...
Mais bon, ça suffit.
Ça manque d'animation, quoi.
Ça suffit, descendez tout de suite. Vous passerez dans mon bureau.
Bon, c'est un classique et en même temps, c'est délicieux. Ici, Romain Duris qui est perché sur un panier de basket dans le film de Périline Jeune de Cédric Clapiche parce que il est la figure du rebelle pour la narratrice de votre BD, Pauline Aubry, où à un moment donné, peut-être reprenant même ces questions de poupée russe dont on parlait tout à l'heure, dans le vide ou le flou identitaire que traverse l'adolescent, bien, il y a la construction qui est la construction d'un personnage qui est bien pratique. En l'occurrence, pourquoi pas la construction du personnage rebelle ? Vous en faites comme une sorte d'inventaire de ces différentes constructions de personnages qui servent à quoi ?
L'adolescent, il a envie d'être cool, il a envie d'être populaire. Et moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et il a envie d'être aimé, et il a envie d'aimer et d'être aimé. Et donc, à un moment, son objectif, ça devient qu'est-ce que je peux bien faire pour me faire remarquer ? Et qui je veux être, en fait, puisque quand il se regarde dans la glace, il est en train de changer, il n'est plus l'enfant qu'il était, donc il faut qu'il trouve qui il va devenir, en fait. Il est dans un espèce de flou. J'ai pas mal écouté vos émissions pendant que j'écrivais le livre, ou pas mal d'émissions là-dessus, sur le fait que c'était une deuxième naissance, en fait, l'adolescence. Et donc, l'utilisation d'un personnage ou la projection dans un personnage comme ça, un peu des idoles, quoi. Quelque part, c'est vrai qu'à l'adolescence, on a souvent des idoles. Moi, mon idole, c'est Tomasi. Et bon, c'était un peu... C'est les années 90, hein, le livre, il se passe dans les années 90. Et c'est aussi l'époque grunge, Nirvana. Donc, c'est vrai que ça passe aussi par le look et la façon de parler d'un modèle. Donc, moi, c'est vrai que Tomasi, pour moi, c'était le rebelle parfait, quoi.
Quand on entend Pauline Aubry dire l'idéal où on a besoin d'être aimé quand on est adolescent et on est prêt à tout et à emprunter tous les costumes pour l'être, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est inhérent à cette période-là, qui est qu'on ne pense pas pouvoir être aimé pour ce qu'on est.
En tous les cas, ça veut dire que le regard de l'autre devient effectivement extrêmement prégnant. C'est-à-dire qu'on existe beaucoup... dans le regard de ses camarades, dans la cour du collège, en fonction du regard que vont porter les autres sur soi, eh bien, on va se sentir plus ou moins bien. Et ça prend une place beaucoup plus importante que ça ne l'était jusqu'alors. C'est-à-dire qu'effectivement, jusque primaire, on peut encore s'habiller comme ce que les parents vous forcent à mettre sur le dos, même si les enfants ont leur propre avis sur la question. Mais bon, ils peuvent tolérer éventuellement d'être au goût de leur papa ou de leur maman. En revanche, à l'adolescence, ça prend une place, je pense, énorme, énorme. Donc le regard de l'autre et le fait de ne pas pouvoir exister sans ça... ça fait partie, je pense, des caractéristiques propres à l'adolescence, dont on essaie de s'affranchir avec le temps, justement. Ce qui fait qu'on devient indépendant de ce regard et donc plus fort, finalement, puisque c'est une forme de vulnérabilité, quand même, de dépendre de ce regard. C'est-à-dire que si ce regard vous échappe, que ce soit le regard des amis, le regard de votre amoureux, petit copain,
ça rentre
bien finalement, vous n'existez plus, donc tout s'effondre. Donc c'est quand même très on-off. Hein. C'est-à-dire que, voilà, cette espèce de permanence du regard qui, avant, et encore une fois, est plutôt le rôle du parent. Quand tu le mets dans ta BD, le bébé qui n'existe que par... le regard de ses parents.
Parler, le regard de ses parents.
Ouais. Disait comment ils font les bébés qui sont abandonnés. Finalement, personne ne pose de regard pour leur permettre de dire tu existes au travers moi. Et finalement, l'adolescent existe effectivement au travers les autres.
Ouais. C'est... qu'est une période de transition avant de pouvoir exister par soi-même et pour soi-même. Finalement, dans cette BD, Pauline Aubry, il y a une part, en effet, qui est très didactique, pédagogique, qui est le fruit de vos échanges, une part de ce que vous observez dans ces ateliers, et puis une grande part de vos propres souvenirs, de vos propres séances de psy, on imagine très bien romancées. Ce sont des souvenirs qui reviennent à l'occasion de ces ateliers, de ces rencontres avec ces adolescents. C'est un prétexte pour mettre en scène tout ça. Comment est-ce que l'idéal Tomasi, la grunge, Nirvana, comment tout ça refait surface?
Le projet, il s'est fait en plusieurs temps parce que j'ai, à la base, comme j'étais dans une école de bande dessinée que j'ai repris un peu sur le tard parce que j'avais envie de raconter des histoires. C'était mon projet de fin d'études, donc j'ai fait des premières planches sur les crises d'angoisse. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de faire le reportage à la Pitié Salpêtrière, donc j'ai fait en mode reportage. Et puis cette première partie a été publiée dans 21 en 30 pages.
Qui est une revue.
Voilà, qui est la revue 21. Et du coup, mais le projet de base, c'était de faire un album. Donc le second temps, ça a été de reprendre les planches de 21 et d'articuler autour une réflexion beaucoup plus profonde sur l'adolescence et sur les maux psychiques. Et à partir, donc, dans le deuxième temps, en fait, je me suis dit, comment je vais raconter de l'adolescence, en fait? Et moi, j'ai tout gardé. Donc, j'ai gardé tous mes journaux intimes, tous mes agendas, toutes les heures de colle, les rappels, les mots de la directrice. Enfin, voilà, j'ai tout dans une boîte qui m'a d'ailleurs été très utile puisque j'ai tout exposé lors d'une grande expo au Festival d'Angoulême. Et en fait, tout ça... Donc, j'ai eu toute cette phase de replonger, en fait, dans mon adolescence. Donc, on relit ces journaux intimes de quand on avait 14 ans à 35 ans, on se sent... Enfin, c'est un peu pathétique, quoi. C'est difficile de se relire et de se revoir comme ça. Mais, et puis après, voilà, y a une réflexion aussi générale sur l'adolescence qui a été alimentée pas mal de documentation, de réfléchir sur c'est qui Françoise Dolto, comment elle définit le complexe du homard, qui est une belle métaphore de l'adolescence. Parce que du coup, même mise en image, elle est assez parlante, puisqu'on voit un petit homard qui tout d'un coup se fissure et qui se retrouve tout nu. Et qui est complètement, qui du coup est obligé de se replier sur lui-même pour se protéger. Donc je me suis appuyée aussi sur ces guest stars que j'ai appelés, avec aussi un ethnologue qui s'appelle Arnold Van Gennep et qui décrit les rites de passage, etc. Et donc j'ai un peu essayé de réfléchir sur c'est quoi en fait l'adolescence. Mais c'était pas une question que je m'étais posée je me l'étais pas posée depuis l'adolescence en fait. C'est venu là.
Si tant est que vous l'étiez posé à l'époque, c'est pas sûr.
Ouais, non, à l'époque, j'avais pas du tout ce recul, c'est vrai. Et puis là, tout d'un coup, c'est devenu... Et aussi, en parallèle, je faisais cette psychothérapie que je fais depuis quelques années. Et donc, avec mon psy, effectivement, je discutais de l'élaboration du livre. Et du fait que, quand on va chez son psy, on vient pas tout seul. On vient avec l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Parfois, il y a ses parents qui s'invitent à la séance de psy. Et voilà, toute cette réflexion s'est formée autour de ça. Autour de la haine qu'on peut avoir vis-à-vis de l'adolescent qu'on a pu être. Puisque les personnages qu'on se crée au moment de l'adolescence... Thomasine est encore un peu là, quoi. Il y a un côté hyper rebelle que j'ai plus envie d'assumer à 35 ans, mais qui fait vraiment partie intégrante de nous. Donc c'est toutes ces petites facettes identitaires, on est vraiment un puzzle en fait, et il y a des pièces dont on a vraiment envie de se débarrasser, quoi.
Mais c'était plus finalement cela que l'observation des ados que vous aviez devant vous, dont finalement vous ne révélez pas grand-chose de leur construction à eux. C'est parce que ça ne vous était pas ou peu accessible, ce qu'ils étaient en train de construire ou de se construire, ou c'est parce que ça fera l'objet d'un autre livre ?
En fait, avec les adolescents, j'ai un peu articulé le livre comme ça, dans le sens où je trouve que, effectivement, moi, j'avais pas accès à... Je faisais pas de séance avec eux. Moi, je faisais du dessin avec eux, donc je prenais ce qu'ils me racontaient, mais j'étais pas dans une relation de psy ou quoi. Donc, je connaissais pas plus que ça leur histoire. Par contre, je trouve qu'ils avaient des profils. Donc, il y en avait un qui était un peu rebelle, qui se faisait remarquer en étant ultra négatif, hyper agressif, à tout le temps chercher les autres, etc. Donc, je me suis appuyée un peu sur lui pour... moi, me souvenir que bah voilà, j'existais aussi en étant hyper rebelle vis-à-vis des profs, en humiliant certains camarades pour me faire valoir. Donc j'ai essayé de réfléchir comme ça, en fait. J'ai, à travers les adolescents...
Ils ont été des petits miroirs de toutes les facettes que vous décriviez tout à l'heure.
Voilà, de toutes les facettes qu'on peut développer à l'adolescence. Il y avait, alors après, je me retrouvais pas forcément à chaque fois en eux, mais c'était une façon de... à leur contact, de dire voilà, elle est plutôt en observation du monde. C'est une Alice par exemple, elle avait des tocs et elle avait des réflexions assez profondes sur le monde, etc. Et puis il y en avait un autre qui était complètement abandonné par ses parents. Enfin, ça permettait d'ouvrir des réflexions à travers leurs portraits. Voilà.
Il y a l'une des adolescentes qui, en effet, dans des moments où ça devient un peu compliqué pour des questions d'angoisse ou de peur, se scarifie les avant-bras. Ça donne lieu à une ouverture de réflexion sur ce que c'est que se faire du mal ou se scarifier. Par exemple, si on essayait de comprendre pourquoi est-ce que dans un moment de construction de soi, on peut en arriver à ces gestes-là, Julie Bourgin.
Alors les scarifications, oui, tu en parles dans la BD. Et d'ailleurs, je crois que tu mets même une explication à un moment donné sur pourquoi on peut en arriver à se scarifier. C'est finalement l'expression très concrète de cette douleur psychique qu'on a du mal à mettre en mots. Donc finalement, se scarifier, ça peut même presque faire du bien. Ça vient soulager à un moment donné cette douleur qu'on n'arrive pas à exprimer autrement. Donc... on peut se dire ça fait mal de scarifier, le premier réflexe d'un adulte en face, n'importe qui. Oh là là, ça saigne, pourquoi il fait ça, ça doit faire mal. Mais il a tellement mal intérieurement que finalement cette douleur physique vient pratiquement prendre le relais et anesthésier, enfin en tous les cas soulager, malheureusement éphémère, cette douleur psychique. Et donc... elle joue comme ça ce rôle d'externalisation de cette douleur et peut du coup l'atténuer. Et puis le travail consiste effectivement à essayer de l'externaliser différemment de pouvoir justement la mettre en mots. Et c'est ça le travail psychothérapeutique pour pouvoir accéder à autre chose que ce comportement de scarification.
Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving. About you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness displays
L'adolescence durait longtemps, bien tous les techniciens, la réalisatrice, tout le monde a les bras en l'air. Et danse et se balance sur le slow de l'adolescence, en tout cas la bande originale, j'imagine que c'est vraiment plus du tout le cas en 2016, mais c'était la bande originale de La Boom, mais aussi cette idée-là que les rêves ne sont pas la réalité et qu'il y a dans ce moment de l'adolescence aussi des constructions, différentes constructions de mondes idéales qui viennent à la place de quoi ou peut-être pendant un moment qui serait lequel, Julie Bourgin. Pourquoi est-ce que les adolescents construisent, rêvassent? On les trouve souvent à rêvasser, les ados.
Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est l'apanage de l'adolescence où je crois que les enfants aussi rêvent beaucoup, les adultes aussi, je pense en fait, mais c'est vrai que...
Vous passez beaucoup de temps dans votre journée à rêvasser un monde idéal, Julie Bourgin? Non mais je sais pas, moi ça me... je trouverais ça super, mais j'ai pas l'impression que ce soit spécialement l'apanage des adultes en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils s'offrent ce temps-là.
De moins en moins, ouais, et on est peut-être presque... plus pris par les contraintes du quotidien.
C'est d'ailleurs la fin de la BD.
Néanmoins, ouais, j'entendais l'autre jour, disait que la musique parfois pouvait être galvanisante et que c'était un neurologue là sur France Culture qui expliquait qu'il avait passé le concours de première année de médecine en écoutant en boucle la musique. De Beethoven, sur Stanley Kubrick, et qu'il avait l'impression qu'avec ça, il allait devenir, qu'il allait y arriver, quoi, avoir le concours. Et j'ai l'impression que cette rêvasserie, c'est aussi une manière de pouvoir se, là, on parle de musique, la boum, etc., comment on peut s'évader. Le fantasme adolescent d'un idéal, c'est effectivement, la construction imaginaire de tous les possibles, et quand même, on peut encore, adolescent, changer de vie, pouvoir dire demain finalement. Rien n'est posé, et donc c'est finalement la partie positive aussi de l'adolescence, parce qu'on a tendance à parler de tout ce qui va pas, ils sont stressés, le chômage, etc., l'angoisse du choix. Mais en même temps, il y a cette possibilité d'osciller, de faire des va-et-vient entre la réalité et le rêve, et parfois de pouvoir réaliser ses rêves et, en les ayant fantasmés pendant plusieurs années. Ça, c'est vrai que c'est propre à l'adolescence.
Qui est un moment aussi où, justement, les différentes options de construction de soi, de sa vie, de son identité sont testées, y compris par la rêvasserie. Évidemment, ce slow, c'est pour évoquer l'obsession qui est emballée d'autres gens quand on est adolescent, et parce qu'on construit un rapport à la sensualité, un rapport à la sexualité, et vous le dites aussi bien dans cette BD Les Mutants, Pauline Aubry. Quel genre de rapport à ce corps-là vous avez décrit dans cette bande dessinée?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on a envie d'aimer et d'être aimé, donc l'adolescent il a envie d'être en groupe, il a envie d'exister, et que dans ce groupe il se passe des choses, et sa vie c'est ses amis et les mecs qui sont autour et toutes les histoires, et puis on se projette aussi beaucoup par les... nous, notre grande série, c'était Beverly Hills. On se projetait complètement dans ces histoires d'amour fantasmées, de est-ce qu'on va faire l'amour, et comment ce sera, et on parlait de ça, et enfin voilà, et en fait ça devient vraiment le cœur des discussions, enfin, et même quelque part quand je relisais tous mes journaux intimes, c'est des petits épisodes de je suis amoureuse de lui, et puis trois jours après c'est fini, et puis donc on ne se nourrit que de ça, on passe des heures au téléphone avec ses copines pour parler d'amour, débriefer est-ce que machin veut sortir avec machin, est-ce que donc en fait c'est le moment de construction de la vie intime, quoi.
Comment on en parle d'un point de vue peut-être plus théorique ou plus médical de cette construction d'une identité sexuelle aussi, d'un positionnement dans la vie sexuelle, dans les échanges sexuels qui peuvent avoir lieu ensuite dans la vie adulte, Julie Bourgin?
Le fait de pouvoir...
Qu'est-ce qui se construit à ce moment-là?
La naissance du désir de l'autre, et donc de pouvoir désirer quelqu'un d'autre, même si ce désir prend différentes... à différentes définitions en fonction des âges, et je crois que l'adolescence en plus entre 12 ans et 18 ans il se passe quand même pas mal de choses. À 12 ans on n'a pas les mêmes désirs qu'à 18 ans face au sexe opposé, Ou en tous les cas, on croit les avoir, mais on est encore un petit peu
perdu.
Et tu le dis à un moment donné. Comment tu dis ça? C'est bien dit. Tu dis, on rêve, on a envie de faire l'amour, mais.
Mais c'est pas possible.
C'est galère, on peut pas.
Mais c'est non envisageable.
C'est l'angoisse pour le coup.
C'est mon mari qui a dit ça. Pour lui, l'adolescence, c'est on a envie de faire l'amour, mais c'est inenvisageable.
C'est inenvisageable. Et puis à un moment donné, ça devient clairement envisageable. Et là, c'est effectivement la construction du désir de l'autre. En termes de maturation, alors effectivement, sur le plan biologique pur, il y a vraiment un processus qui aboutit. C'est-à-dire que sur le plan hormonal, il y a un corps qui fonctionne différemment et qui peut désirer l'autre de façon plus charnelle que d'avoir le sentiment amoureux, comme tu dis, qui peut être décrit page après page dans le journal intime. Je suis amoureux de machin, je suis amoureux de truc. Et puis, sur le plan biologique, il y a vraiment une frontière et une maturation qui permet effectivement de rencontrer l'autre, pas forcément d'ailleurs du sexe opposé.
C'est vrai, tout est possible.
Tu le mets aussi.
C'est un monde de possible.
C'est un monde de possible. Tu le mets aussi d'ailleurs, à un moment donné.
Ah bon?
Oui.
La bande dessinée, en tout cas, je peux vous dire que ce sur quoi il se termine, c'est la construction quand même d'un autre lien avec les parents. On a commencé la discussion en disant que, l'un des flous, l'une des difficultés de cette période, qu'elle soit aussi traversée de maux psychiques ou pas, c'est la séparation d'avec un regard, un lien de la cellule familiale. Ça, finalement, la BD, comme une sorte de spirale, revient sur la construction d'un autre lien à cette cellule familiale, d'un autre regard porté sur les parents. Ça vous est apparu une évidence de conclure là-dessus, Pauline Aubry?
Je crois que quelque part c'était une réflexion d'adulte sur l'adolescence, donc tout ce livre m'a permis de un peu remettre en ordre tout ce qui avait fait que j'étais ce que je suis aujourd'hui, et que quelque part cette angoisse que j'ai eue à 19 ans, c'était quelque part l'angoisse de décevoir mes parents par rapport à la projection de l'enfant idéal. C'était le docteur Benoît qui m'avait expliqué un peu ça. C'était que, quelque part, inconsciemment, nos parents nous donnent des indices pour comprendre quel est leur enfant idéal. Et nous, on va entendre ça et on va se positionner forcément par rapport à ça ou contre ça, mais ça va donner une espèce de référence de ce qu'il faudrait être, la personne qu'il faudrait être dans le regard des parents. Et puis,
en l'occurrence, il y a quand même une séquence assez drôle, une vignette assez drôle où vous rencontrez la construction de cet enfant idéal, qui est un mec qui fait 1m85, qui a les yeux clairs, qui est sportif, enfin bref.
Et qui fait S.
Et vous concluez que donc ce n'est pas possible d'être l'enfant idéal de vos parents. Et virgule, bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est là aussi que les choses commencent. C'est quand la construction de soi commence par être le fait de réaliser qu'on est autre chose que la seule satisfaction d'une attente.
Oui, et puis quelque part, et puis mon psy me dit « vous n'êtes pas né pour les satisfaire », et ça c'est une phrase qui, moi, m'a fait du bien, mais c'est vrai qu'il y a eu une latence, une période de latence entre, pour moi, la fin de l'adolescence, qui était entre 19 et 25 ans, quoi, où je faisais mes études, et je faisais des études qui n'étaient pas les études attendues, et qui, du coup, après, derrière, j'ai dû, moi, je pense, porter le poids que je me mettais de répondre à cette attente, et puis... là, aujourd'hui, le livre, c'est quelque part l'aboutissement de se dire que ce que j'ai construit aujourd'hui, ça me correspond moi. Et c'est mon échéance à moi et ça me convient, quoi. Enfin, je réponds pas à l'attente de quelqu'un, je réponds à ma propre attente. Donc peut-être que c'est pour ça que je peux me dire qu'aujourd'hui, je suis devenue adulte. Parce que je me suis détachée un peu du regard des parents, quoi.
Vous faites une exposition des productions qui ont été faites à travers cet atelier BD, une exposition au sein de l'hôpital et de cette unité psychiatrique. Comment est-ce qu'ils ont regardé leurs propres dessins, les ados que vous aviez rencontrés?
Alors, on a fait une exposition, à la Fondation EDF et il n'y avait pas beaucoup des adolescents. Donc, je ne peux pas trop vous dire ce qu'ils ont pensé. Il y en a un qui est venu avec sa maman et sa grand-mère. Et lui, ça faisait partie c'est celui qui s'appelle Pierre dans la BD. Et ça faisait partie des patients qui étaient les plus motivés déjà, parce que je pense qu'il était vraiment sensible à la BD et au dessin. Et lui, je sais que déjà sur le reportage de 21, ça l'avait fait beaucoup de bien. Il était très fier de montrer, puisque j'ai repris certaines... Leurs planches, en fait, je les ai redessinées, donc telles qu'il les avait écrites. Et donc, ça, il est venu avec sa famille. Ils m'ont tous demandé de leur dédicacer chacun un livre, etc. Et donc, c'était très positif pour lui de voir ça. Et après, les autres, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles. C'est pas évident de garder le contact. C'est parfois une période difficile et les parents n'ont pas forcément envie de replonger là-dedans. Voilà. Donc, c'est dommage. J'aimerais bien que même par la suite, il y ait un contact autour de ça.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
14h52 sur France Culture, à cette heure-ci, les discussions se suspendent pour faire entendre des récits d'émotion. Il y a un petit peu plus d'un an, Rada Hatem, qui est gynécologue, a posé la première pierre d'une maison des femmes qui ouvrira ses portes en juin à Saint-Denis. Elle est avec nous dans la séquence au singulier jusqu'à demain vendredi. Et aujourd'hui, elle raconte sa découverte d'un lieu, la maternité suisse d'Elne.
En fait, cet été, j'étais en pays Qatar, que je ne connaissais pas. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de voir les châteaux Qatar, c'est de toute beauté. Et là, je tombe sur un prospectus, la maternité suisse. Alors, en bonne gynécologue, quand je vois maternité, je fais tilt. Et je dis à mon mari, il faut qu'on aille voir ça. Il me répond, tu me gonfles. Et on est allé voir ça. Et là, j'ai découvert une femme très engagée, c'était pendant la guerre, évidemment, qui avait investi la maison d'un industriel, une très très belle maison dans la Pampa, et qu'il avait transformé en maternité pour les femmes qui sortaient des camps du camp de Rivesalt ou qui venaient d'Espagne. Et elle accueillait les femmes enceintes dans cette maison, qu'elle avait donc elle-même été infirmière, je crois, ou même pas. Elle avait embauché une puéricultrice, une sage-femme, et elle accueillait ces femmes, elle les faisait manger, parce qu'en général, elles étaient d'une maigreur atroce, et elle leur permettait de donner naissance à leur enfant dans des conditions à peu près chaleureuses. Et donc, il y avait une expo photo avec des enfants, comme vous pouvez imaginer, complètement d'une maigreur abominable. Et puis, beaucoup de joie de vivre dans le jardin, les femmes posant avec les nouveau-nés. Et ça m'a vraiment touchée. Et sur ce, une amie m'offre le bouquin de Valentine Gobi qui s'appelle Kinderzimmer et qui là raconte la naissance d'un enfant dans le camp de Ravensbrück. Une jeune femme de 22 ans qui est déportée, qui est enceinte au tout début de sa grossesse. Et puis l'horreur de la vie du camp, rien de nouveau. Mais aussi cet endroit où sont hébergés les nouveau-nés, qui est comme une espèce de lieu de vie à part, avec une toute jeune puéricultrice qui essaie d'en sauver les quelques rares qu'elle sauve et qui accueille cette femme, son enfant. Je ne raconte pas la suite de l'histoire, si jamais les gens veulent le lire, ça ne serait pas gentil. Mais j'ai trouvé ce bouquin extrêmement bouleversant sur comment accoucher dans des conditions absolument abominables et garder l'espoir de la vie. Et sur ce, je pars avec mes très grands enfants pour un grand week-end à Cracovie. Et on en profite pour aller visiter les camps de concentration, donc Auschwitz et Birkenau. Et alors Auschwitz, je ne sais pas si vous avez vu, bon, c'est très polissé, propre, refait, etc. Aucune émotion. Et j'arrive à Birkenau, les baraques, la gadoue. Et c'est comme si j'étais dans le livre de Valentine Gobi et je voyais ces femmes, je voyais ces paillasses, cette maison avec les nouveau-nés. La Shoah est quelque chose qui m'interpelle de toute façon, puisque mes origines libanaises, ma vie avec les Palestiniens font que je suis extrêmement sensibilisée à cette cause. Et que depuis toujours, j'essaie de comprendre. Donc pour moi, comprendre, ça passe par la lecture. Donc à peu près lu tout ce qu'il y avait sur la Shoah, les romans, encore un roman sur la Shoah, comme disait je ne sais quel commentateur sur ce livre. Et ben, ce que ça me dit, c'est que l'horreur qui a pu se perpétrer il y a 50 ans n'a guéri personne, n'a rien réparé, que le plus jamais ça est un vœu pieux, et que malgré tout, par moments, il y a des pépites de vie comme ça, comme cette femme, cette puéricultrice qui protégeait ses nouveau-nés dans son camp de concentration et qui vit encore, je crois, puisque l'auteur du bouquin l'a rencontrée. C'est très émouvant quand elle parle de ça. It's my body, I...
London Undress par Marika Ackman, choisie par Liscombe. Pour terminer l'émission, merci beaucoup Pauline Aubry d'avoir été avec nous cet après-midi. Le titre de votre BD, c'est Les Mutants, sous-titré Un peuple d'incompris, publié aux éditions Les Arènes. Ça nous a permis de sonder quels étaient nos goûts musicaux, nos looks respectifs et nos séries télévision débiles préférées. Merci beaucoup Julie Bourgin d'avoir été avec nous cet après-midi. Des nouvelles vagues, c'est terminé pour aujourd'hui, mais en surfant un peu du côté de franceculture.fr, vous pourrez tout réécouter. On peut aussi se parler, s'écrire via le site ou Twitter et Facebook. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron, Léna Burger qui pense et prépare cette émission avec moi. Liscombe la réalise aux manettes Alexandre Dang, au droit d'auteur Ben Cachemaret.